France Culture. De l'histoire. Xavier Mauduit.
Graines d'empire, quand les États se bâtissent sur le blé à comprendre, comme la céréale, dont les grains broyés donnent de la farine qui, elle-même, devient du pain. Mais la puissance symbolique de cette graminée est telle que, dans notre langue, le blé désigne aussi l'argent, de la nécessité de nourrir les populations. Au désir de puissance et de conquête, le blé semble mener le monde d'épis empire.
Caroline, les filles, venez voir!
C'est la terre qui chante, qui tire en chantant. Nous que sa voix nous chante, révisons les foutons.
Regardez.
Aujourd'hui, le blé.
Regardez ça. De la bonne terre, bien verte. Ça veut dire qu'il y a de l'eau en abondance. On est arrivé. C'est chez nous ici.
Un petit clin d'œil à la petite maison dans la prairie. Bonjour Alessandro Stanziani.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, directeur de recherche au CNRS. Vous publiez « Les guerres du blé, une éco-histoire écologique et géopolitique ». C'est à la découverte. Avec ces guerres du blé, on voit comment le blé semble mener le monde. Avant toute chose, je voudrais qu'on précise un peu ce qu'il en est de cette céréale. Parce qu'il y a de la concurrence, il n'y a pas que le blé comme céréale importante dans notre histoire.
C'est vrai, dans l'histoire du monde, on a au moins les trois grandes céréales qui sont le blé, le maïs, le riz. Brodel, à son époque, avait même identifié des civilisations. La civilisation du blé, c'est l'Europe. La civilisation du riz, c'est l'Asie. La civilisation du maïs, c'est les Amériques. En réalité, dans le temps, on a eu beaucoup plus de croisements qu'on le soupçonnait avant, en utilisant par exemple l'archéobotanique. Mais pourquoi le blé ? Parce que c'est le moins productif que les grandes céréales et surtout dans le temps, le blé s'est imposé même en Asie. Et la question est de savoir pourquoi.
Et c'est vraiment ça, c'est une question essentielle, fondamentale. Et d'ailleurs, c'est passionnant de traverser cette histoire sur la longue durée à travers cette graine. Le blé, c'est pas grand-chose le blé, mais alors ça mène le monde avec peut-être des considérations de production. Parce qu'on va vous répondre, bah oui, mais le riz, c'est vrai que c'est difficile à produire partout dans le monde. Est-ce que le blé, lui, a cette faculté-là d'être adaptable facilement ?
Alors, les adaptations du blé aussi ont été reconstitués. Le blé a muté énormément depuis le néolithique, mais il a surtout muté à partir du XVIIIe siècle avec les progrès agronomiques et encore plus, il a mué au cours du XIXe, du XXe siècle avec la génétique. Alors l'adaptation du blé est exactement le problème qui se pose plusieurs empires, encore de nos jours, avec des empires informels, au moment où le blé est devenu la céréale principale à l'échelle mondiale. Comment adapter du blé, par exemple, en Asie ? Les Anglais se posaient déjà cette question au XIXe siècle, au moment où ils essayaient d'implanter du blé au Punjab, avec des effets catastrophiques sur les écosystèmes. Encore, l'adaptation du blé en Amérique a été un processus lent, difficile. Au début, c'était le maïs. Le blé est arrivé à l'aide des migrants russes, par exemple. Ou encore, pourquoi et comment aujourd'hui on peut essayer d'implanter du blé en Amérique latine ou en Australie? Ça avait commencé au 19e siècle avec, là aussi, des résultats catastrophiques pour les systèmes écologiques et une imposition forte sur les terres qui, en principe, appartenaient aux soi-disant nomades. Et c'était un processus de très très longue durée. Les producteurs de blé qui chassent les nomades, ils les exterminent. C'était le cas en Asie centrale, en Australie, et puis les Indiens d'Amérique, au Canada et aux États-Unis même, ils ont été exterminés précisément au nom du blé.
On comprend le titre de votre ouvrage, Alessandro Stanziani, Les guerres du blé, c'est ce mot qui nous interpelle, la guerre, parce que quand on pense au blé, on pense plutôt à nourrir les gens. Vous mettez en avant cette guerre, mais ce n'est pas contradictoire.
Non, ce n'est pas contradictoire dans la mesure où, pour mener des guerres, il y a une équation très difficile à résoudre depuis le XVIIe siècle, qui est la suivante. Une fois que je n'ai plus de mercenaires, comment un État peut arriver à recruter des paysans, donc à enlever de la force de travail des campagnes, en alimentant les paysans devenus soldats et en continuant d'approvisionner les villes. C'était l'équation la plus difficile au XVIIe siècle et la naissance de l'État moderne, selon moi, est précisément liée à la résolution de cette équation, qui a été réglée, résolue, de manière plus ou moins convaincante, de manière différente, suivant les pays. Par exemple, en Chine, en Russie, en Angleterre ou en France, les réponses apportées ont été différentes. Par exemple, les Chinois, avec le riz, une fois qu'ils commencent à occuper les steppes d'Asie centrale, ils se posent exactement le problème de comment nourrir les soldats et les villes. La solution est alors trouvée d'abord dans les paysans-soldats. Les soldats Han occupent les steppes des Mongols et les soldats cultivent les steppes et produisent leur propre riz et surtout leur propre millet. Donc c'est une solution particulière qui s'accompagne néanmoins du rôle important des marchands pour approvisionner les autres régions de Chine. Les Russes trouvent une toute autre solution. Ils occupent les steppes, eux aussi, ils les enlèvent aux soi-disant nomades, et ils mettent eux aussi des soldats paysans. Sauf que, à la différence des Chinois, les Russes n'ont pas confiance dans le marché. Et du coup, c'est l'État qui s'occupe de l'approvisionnement en blé des villes et des soldats qui ne sont pas dans les steppes. L'Angleterre est encore une autre solution. L'Angleterre n'a pas énormément de blé. L'Angleterre commence à importer du blé au milieu du XVIIIe siècle. Mais qu'est-ce qu'elle fait l'Angleterre? Contrairement à l'historiographie conventionnelle qui parle d'une Angleterre libérale, du libre-marché depuis le XVIIIe siècle, en réalité, les marchés du blé sont étroitement surveillés et régulés en Angleterre, et ceci jusqu'à la fin du XIXe siècle. Les Anglais n'ont pas confiance dans le marché lorsqu'il s'agit du blé. Et la France là-dedans? Alors, en France, on trouve aussi des solutions. La première solution consiste à créer des réserves pour la population civile et pour les soldats. Il faut accumuler du blé. Mais qui est censé apporter ce blé? Et c'est là où il y a des tensions importantes entre les marchands, les paysans, l'État et les villes. Il faut négocier la contribution du blé et en particulier les réserves. Alors, côté français, on trouve une solution pour quelle raison? Parce que il y a une productivité que malgré tout augmente depuis des siècles. Ce n'est pas vrai que l'agriculture française était stagnante, en retard par rapport à l'Angleterre au XVIIe, XVIIIe siècle. Tout au contraire, l'agriculture française était performante et donc elle permet d'assurer à la fois l'approvisionnement des villes et l'approvisionnement de l'armée. Le problème, ce sont plutôt les finances publiques.
Et oui, parce que là, vous posez tout de suite, Alessandro Sanziani, des idées extrêmement simples à comprendre, mais très, très difficiles à résoudre. Hein. Cette idée que pour faire la guerre, bah oui, il faut nourrir à la fois les populations, à la fois les soldats, et vous donnez ces différentes approches. Dans le cas français, vous le dites bien, la France produit du blé. La question est sans doute autre, il y a celle des spéculateurs, parce que là, priorité d'un gouvernement, c'est de nourrir sa population. Sinon, y a des risques. Si les gens ne mangent pas, les gens ne sont pas contents. Donc déjà, à la base, on a cet impératif pour le pouvoir nourrir sa population.
Alors, la tension est double. Tout d'abord, il y a une tension entre guerre, marché et spéculation. Alors, les États dits d'ancien régime essaie de contourner ce problème en essayant de concilier le marché qui est déjà là et le contrôle des quantités et donc des prix. Comment font-ils? D'un côté, il y a des prix relativement figés. Dans quelle mesure? Dans la mesure où, en France, mais également en Chine, on a, pour ainsi dire, une théorie et une politique économique dite du juste prix. Le juste prix, ça veut dire quoi? C'est une notion qui existe encore de nos jours. On va sur un marché, quel est le juste prix? Quel est le prix juste? C'est une notion à la fois philosophique et économique. Et il ne faut pas oublier qu'en France en particulier, la naissance de l'économie politique et encore jusqu'à la fin du 19e, du 18e siècle, l'économie politique est indissociable de la philosophie. Du coup, la question est comment fixer un juste prix? Et le juste prix s'ancre dans des tradition de philosophie thomiste, mais également dans des politiques dites d'ancien régime, suivant lesquelles à chaque population correspond, à chaque classe de la population correspond quoi? Un type de blé et un prix particulier. par exemple, les Parisiens et les élites mangent du pain blanc et donc du froment. Les groupes inférieurs ont déjà un pain bis et un mélange de froment seigle. Et puis, les paysans, et en cas de mauvaise récolte, on mange des substituts du blé. Donc, c'est très hiérarchisé et très figé. Et en même temps, les prix sont fixés de manière telle à limiter les spéculations. C'est exactement ça, l'ambition de la monarchie. Mais c'est exactement le même problème qui se pose les Chinois. Et la solution est donc trouvée dans une régulation, mais qui est en même temps limitée, qui permet de sauvegarder la hiérarchie et les inégalités des sociétés d'ancien régime. Donc, il ne faut pas interpréter le XVIIIe siècle avec les yeux du XIXe et du XXe. L'opposition entre marché et régulation, elle est importante, mais elle est beaucoup plus souple de ce qu'elle en deviendra par la suite. Donc, l'opposition entre les physiocrates, par exemple, et ceux qui souhaitent encore réguler le blé en France, elle est moins nette par rapport aux interprétations qui en seront données à partir du XIXe siècle.
Oui, et puis on parle souvent du blé quand il y a un problème autour du blé dans l'histoire. On focalise souvent sur ces moments de tension. Par exemple, c'est le cas avec la guerre des farines.
Le problème économique, quel est-il ? Pour le peuple, c'est le prix du pain. Eh bien, le peuple n'a pas tellement tort, sauf qu'il ne voit pas ce problème en profondeur. Mais pour Turgot, le prix du pain, cela représente en effet tout le problème de l'économie. Il aura pendant son ministère une émeute qui marquera d'ailleurs le commencement de son déclin, qui sera l'échec de ce ministère, et qu'on a appelé la guerre des farines. Et les historiens actuels qui étudient maintenant de très près la guerre des farines, notamment en Russie soviétique ou en Angleterre, ils voient tous une préface, une répétition générale de la révolution de 1789. La guerre des farines sera une émeute du pain, la révolution de 89 est une révolution du pain. Mais pour aborder ce sujet, il faut se demander pourquoi les gens faisaient-ils des émeutes pour le pain. D'abord, c'est parce que le pain était la base de leur nourriture. Aujourd'hui, ce serait plutôt la viande. En tout cas, nous avons des nourritures variées. À ce moment-là, c'était le pain, qui d'ailleurs n'est pas fait toujours de blé ou de grand blé. Il peut être fait de seigle, d'orge, d'avoine. Il peut comprendre les produits les plus variés. Et dans certaines provinces, on mange des châtaignes, des raves ou des gaules. Enfin, c'est le pain qui est la base de l'alimentation.
Ah oui, le pain, c'est la base de tout. Ici, c'est Edgar Faure qu'on entendait dans le cadre des conférences de l'Université des Annales. Nous étions en 1960. Alessandro Stranziani, ces guerres des farines, c'est au XVIIIe siècle, en 1775. Souvent, on les présente, ces guerres-là, comme un avant-goût de la Révolution française. Mais c'est toute la tension qui nous intéresse. Réfléchir à l'histoire du blé, ce n'est pas réfléchir uniquement au temps qu'il fait et aux mauvaises récoltes. C'est réfléchir à la spéculation, aux tensions sociales et politiques qu'engendre le blé.
Alors, sans doute, il y a une influence dans des sociétés agraires de la météorologie et du climat. On a des analyses désormais récentes qui permettent de comprendre, par exemple, pourquoi les tensions politique importante au XVIIe siècle, partout. C'est en France, c'est en Angleterre, c'est en Perse, c'est dans l'Empire ottoman, c'est en Chine. Elles sont liées au début d'un petit air glaciaire qui fait baisser les récoltes. On a des mauvaises récoltes sur 2, 3, même 8 ans. Alors dans une société agraire, c'est évident que plusieurs mauvaises récoltes peuvent conduire à des crises politiques majeures. Et pourtant là, c'est condition nécessaire, mais pas suffisante. Pourquoi ? Parce que ça dépend aussi des politiques qui sont adoptées et des inégalités à l'intérieur des sociétés. Alors du coup, on revient là aux révolutions et aux émeutes, et en particulier en France. Il est déjà impossible à cette époque, au XVIIIe siècle, de séparer mauvaise récolte, famine et disette, c'est-à-dire les marchés et les mouvements météorologiques. Pourquoi ? Parce que, contrairement à ce que le prix Nobel Amartya Sen avait affirmé, l'impact des spéculations sur les marchés en cas de mauvaise récolte ne sont pas un phénomène du XXe siècle avancé, il est déjà là au XVIIIe siècle, et pour certains médiévistes, c'est déjà le cas au XIIe siècle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, comme le disait par exemple Jean Mauvray, un grand historien français pendant les années 60, il n'y a jamais eu tellement de blé sur les Hauts-de-France qu'en cas de mauvaise récolte. C'est-à-dire, il y a du blé, mais le vrai problème, c'est la spéculation sur les blés et donc les accapareurs de blé. Il y a un deuxième élément qui intervient pour expliquer en effet la révolution. D'un côté, il y a sans doute des mauvaises récoltes, mais d'un autre côté, il y a la spéculation sur les blés et surtout, il y a la spéculation financière internationale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que au cours du XVIIIe siècle, les finances internationales, les mouvements monétaires sont déjà conséquents et importants. La France, elle a une agriculture performante, mais elle a un problème, c'est l'endettement de la monarchie. Et précisément vers la fin des années 80, il y a un mouvement de spéculation internationale sur la dette française. Et le problème donc, c'est moins l'agriculture ou un, deux ans de mauvaise récolte que les spéculations internationales qui font chuter les capacités de la monarchie de faire face à une mauvaise récolte. On ne peut pas importer, par exemple, du blé de la Baltique, c'était le cas traditionnellement, d'où une persistance des tensions sur le marché. Donc, c'est une convergence, encore une fois, de une monarchie qui est mal organisée sur le plan fiscal, très peu de gens payent l'impôt, une mauvaise récolte, deux mauvaises récoltes en réalité, et des spéculations à la fois marchandes et financières. Donc, c'est l'ensemble de ces problèmes qui sont locaux, nationaux et internationaux qui expliquent la Révolution française.
L'État est dans le pré, dans le cours de l'histoire aujourd'hui, Alessandro Sanziani, parce que l'État a besoin d'argent et la fiscalité repose beaucoup sur le blé. Et là, dans tout ce que vous venez de nous dire, on saisit combien l'État doit regarder ce qui se passe sur la spéculation, sur les marchés, sur la production, parce que l'impôt lui-même naît de ces récoltes.
Absolument. Il y a encore dans certains pays un impôt qui est directement prélevé sur les récoltes, mais même si l'impôt est en argent, la production agricole, elle est cruciale pour l'imposition fiscale. Et l'État en a besoin pour financer à la fois les réserves granaires, l'armée, l'approvisionnement des villes. Donc, l'imposition fiscale est essentielle. Comment se passe-t-elle ? D'un côté, nous avons l'Angleterre. L'Angleterre qui est toujours présentée comme le cas de la fiscalité moderne, d'une centralisation de la fiscalité. Tout le monde paie les impôts. Cette image est à nuancer pour deux raisons. Primo, parce que l'impôt est fortement inégalitaire. Elle est encore un impôt stable, c'est-à-dire régressif, proportionnel. Donc, c'est-à-dire que les plus pauvres paient beaucoup plus en Angleterre. Et surtout, quand on dit la centralisation de l'impôt, l'état fiscal moderne en Angleterre, on oublie de penser l'Angleterre comme un empire. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Pour quelle raison ? Parce que la Compagnie des Indes, qui contrôle l'Inde justement, elle est un État dans l'État. Elle est indépendante par rapport à l'État central anglais. Du coup, contrairement à ce qu'on raconte, l'Angleterre arrive à progresser malgré une difficulté à centraliser l'impôt à l'échelle impériale. Elle n'y arrive pas. Pas mieux que la France, pas mieux que les autres. Ce qui arrive mieux, c'est effectivement, encore une fois, ce sont les Russes qui arrivent à centraliser l'impôt à l'échelle de leur empire.
Avec des Britanniques qui ne produisent pas tant de blé que ça, nos voisins là, voilà, ils sont extrêmement puissants. Mais alors Alessandro Sanziani, est-ce que l'on peut expliquer cet empire que vous venez d'évoquer par le besoin d'avoir de grandes productions de blé? Parce que le blé, c'est la puissance, il faut nourrir les soldats, il faut nourrir la population, et ça permet de lever les impôts.
Alors là, c'est vraiment le cœur du problème. L'Angleterre devient déficitaire en blé et en produits agricoles et denrées alimentaires en particulier vers le milieu du XVIIIe siècle. Pourquoi elle devient déficitaire ? Parce qu'elle mise beaucoup plus sur la production industrielle, éventuellement sur le commerce, beaucoup moins sur l'agriculture. Du coup, la question se pose, où est-ce que je trouve le blé ? Mais d'abord, pourquoi ils ont besoin de blé ? Ils ont besoin de blé en Angleterre pour une raison particulière. Parce que la soi-disant révolution industrielle, la première révolution industrielle en Angleterre, elle s'appuie beaucoup moins sur le capital qu'on raconte d'habitude, elle s'appuie sur le travail. Elle est très intensive en travail. En réalité, contrairement à ce que Marx ou Smith racontent, ça sera la deuxième révolution industrielle qui sera très intensive en capital. La première utilise du travail pour augmenter les rendements, pour augmenter la production. Or, le travail a besoin d'un fuel. Ce n'est pas le pétrole, c'est le blé. Il faut nourrir les populations pour qu'elles travaillent. Or, l'Angleterre n'a pas suffisamment de blé. Comment elle fait ? Au début, elle importe de la Baltique et ensuite, elle se tourne vers ses colonies et puis anciennes colonies au-delà de l'Atlantique. Donc, là, c'est très important. Pourquoi ? Parce que l'extermination des nomades présumés, comme je le disais, parce qu'en réalité, ils cultivaient aussi, les Sioux, les Apaches, ils cultivaient. En réalité, donc, l'extermination des nomades aux États-Unis répond à l'exigence des États-Unis, désormais indépendants, mais aussi et surtout de l'Angleterre, pour avoir du blé, davantage du blé. L'Empire anglais s'appuie sur le blé produit aux États-Unis, mais également dans les colonies britanniques qui sont le Canada et l'Australie. Là aussi, on a besoin de défricher des terres, de les enlever aux aborigènes, par exemple en Australie, de les enlever aux Indiens au Canada et de produire du blé. C'est la force de l'Angleterre. Et là, on trouve quand même un phénomène global. Pourquoi ? Parce que des deux côtés de l'Eurasie nord, on a un phénomène parallèle qui n'a pas tellement été mis en évidence par les historiens. Et il est le suivant, avec l'Angleterre, un autre pays envahit des terres pour produire du blé pour l'ensemble des autres pays. C'est la Russie. C'est la Russie que non seulement, déjà au XVIIe, XVIIIe, enlève les steppes aux nomades, mais au XVIIIe, fin XVIIIe et puis début XIXe, elle s'empare de l'Ukraine. L'Ukraine qui devient le grenier de la Russie. Donc nous avons un phénomène semblable des deux côtés de l'Eurasie. Deux pays, la Russie et l'Angleterre, comprennent que le blé est le nerf de la domination internationale. Et du coup, ils occupent les deux des terres pour produire du blé destiné en partie à leur propre population, mais également, et c'est le cas de la Russie, à d'autres populations. La Russie devient vite le premier exportateur mondial grâce à l'occupation de l'Ukraine. Mais il y a aussi un mais, et là c'est très intéressant, en Ukraine, on ne produit pas n'importe quel blé.
Lequel ?
Alors, en Ukraine, on produit le blé dit Taganrog. Alors, ce blé Taganrog est un blé dur. C'est pas le blé tendre, typique pour la production de pain. Qu'est-ce qu'on produit avec le blé dur ? Ce blé dur, au moment du blocus napoléonien, pendant les guerres napoléoniennes, arrive en Italie. En Italie, on avait commencé à produire des pâtes. Et les pâtes se font avec le blé dur, pas avec le blé tendre. Du coup, il y a une connexion entre l'estepe russe et la Méditerranée qui deviendra une connexion mondiale. C'est le blé Taganrog, le blé dur, qui arrive en Italie et qui permet l'essor des pâtes industrielles telles qu'on les connaît aujourd'hui. Voilà une connexion fondamentale parce que la révolution des pâtes, c'est la première grande révolution alimentaire de l'époque moderne. Un produit, un principe anodin, s'impose à l'échelle mondiale. Et ça naît du croisement entre une production qui était juste locale, régionale, nationale, et le blé Taganrog du Russie, et donc l'occupation de l'Ukraine.
Alessandro Sanziani, il y a dans vos ouvrages, que ce soit les guerres du blé, mais les autres, Capital Terre, une histoire longue du monde, et on pourrait en citer d'autres, toujours une attention très nette portée sur les pâtes. Non, c'est important. Vous avez toujours des pâtes. Non, mais voilà, parce qu'on sent cette révolution alimentaire. Et merci d'avoir rappelé que l'industrialisation, en tout cas, la première, ne repose pas sur des machines, elle repose sur du travail. Et ce travail-là n'est pas seulement celui des travailleurs et des travailleuses à l'usine, c'est aussi les travailleurs de la terre.
Debout les gars, la cloche sonne, l'Angélus au clocher lointain, et dans les cieux, seul rayonne la blanche étoile du matin.
La blanche étoile du matin,
la blanche étoile du matin. Sortons les faux et les fossiles, debout les filles.
Allons couper les mélanges, debout les
Debout les gars, car l'Alouette a déjà redit ses chansons. C'est aujourd'hui la grande fête des moissonneurs et des moissons.
Des moissonneurs et des moissons.
Des moissonneurs et des moissons. Sortons les faux et les fossiles, à vous les filles.
Allons couper les blés en bas, debout les gars.
Paul Payen, Les Moissons, opéra comique 1938, parce que ce sont des hommes, des femmes qui produisent. Alessandro Sanziani, on voit dans Les Guerres du blé combien il y a un écart sans cesse, un système de focus entre les gens qui travaillent au plus près de la terre, dans leurs champs, et puis les enjeux, qui d'ailleurs se jouent bien loin des champs. Et là, on est sans doute dans les villes et sous les boiseries dorées des palais. Mais c'est ce va-et-vient constant entre le très local où on produit et puis les échanges mondiaux. Parce qu'on ne peut pas comprendre la production dans un champ n'importe où, que ce soit en Bosse, en Ukraine, que ce soit en Angleterre, si on ne prend pas en compte cette importance du blé à l'échelle mondiale.
Alors, cet aspect est à déployer selon au moins deux points de vue. Le premier, les paysans sont loin d'être immobiles. Et c'est là la caractéristique du 18e, du 19e siècle. Ça va s'arrêter seulement en partie au 20e siècle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a très peu de soi-disant prolétaires au 19e siècle. L'acteur dominant est l'ouvrier paysan, c'est-à-dire la pluriactivité. Il y a des paysans marins, il y a des paysans marchands, des paysans artisans, des paysans ouvriers. Et donc l'aller-retour ville-campagne est quelque chose de fondamental qui va au-delà des théories de Marx ou même des théories libérales en voyant soit un producteur indépendant, les libéraux, soit le prolétaire, le paysan qui devient prolétaire. Les paysans font de la pluriactivité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces allers-retours embêtent avant tout les industriels. Pourquoi? Parce que, et ça reste jusqu'à nos jours, ils sont obligés de fermer lors des grandes activités agricoles, par exemple lors de la récolte. Ça vient de là. Toutes les usines, toutes les manufactures ferment en été, sauf trouver par exemple des remplaçants. Parfois c'est des femmes, parfois c'est des autres. Mais de manière générale, ça ne marche pas. Alors, cette solution, ce problème, comment peut être réglé? Par des normes à l'époque qui sont coercitives. C'est-à-dire, notamment en Angleterre et en partie seulement en France, on a introduit des pénalités pour tous les travailleurs qui s'éloigneraient de leur travail sans l'autorisation du maître. Donc on a des pénalités très fortes, on est dans un cadre d'un marché du travail, surtout en Angleterre, dans lequel les sanctions pénales sont encore fondamentales, importantes. L'Angleterre réalise sa révolution industrielle et au-delà jusqu'aux années 70 du 19e siècle en utilisant des normes pénales vis-à-vis des travailleurs qui s'éloigneraient de leur travail et qui ne respecteraient pas les consignes de productivité et ainsi de suite. Mais parce que c'était des ouvriers paysans. Et ça, c'est fondamental. Les ouvriers paysans survivent jusqu'à la deuxième révolution industrielle. Et en même temps, ces connexions entre régions permettent également de comprendre mieux les connexions à l'échelle globale. On a des marchés locaux, des marchés internationaux. Le plus difficile à créer, et Braudel l'avait déjà dit, ce sont les marchés nationaux. Le marché national, l'unification des prix, est un processus très lent qui se met en place au cours du 19e siècle, au moins dans certains pays, mais qui est vite accompagné de quelque chose de nouveau. Vers la fin du 19e siècle, on dérégule les bourses de commerce. Alors, c'est quoi? Les bourses de commerce, à la différence des bourses valeurs, traitent de farine, de matières premières, surtout de quelques denrées agricoles. Alors, ces bourses existaient en réalité depuis des siècles et elles étaient fortement réglementées. Vers la fin du 19e siècle, on imagine que grâce au transport, grâce au marché, grâce à la hausse de la production, ces bourses peuvent être dérégulées totalement. Ça veut dire quoi? Que je peux spéculer. Et ça veut dire quoi en concret spéculer? Jusqu'alors, on pouvait juste acheter, par exemple, à l'avance, des récoltes. Mais il fallait que des récoltes puissent enfin voir le jour pour pouvoir négocier. Là, on invente quelque chose de nouveau. Ce sont les produits virtuels. Les acteurs dans les bourses de commerce, échangent des promesses de vente de produits qui ne verront jamais le jour. J'achète une promesse sur un produit à venir que je transfère comme crédit à quelqu'un d'autre et ça circule comme des assignats. C'est quelque chose qui provoque tout de suite des tollés importants partout en Europe, aux États-Unis, mais c'est la pensée libérale de l'époque qui s'impose. Et cette pensée a des effets également dans le monde colonial. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là, fin 19e, justement avec la libéralisation des bourses de commerce, qu'on commence à avoir une multiplication de famines en Afrique et en Inde. Les famines existaient déjà avant. Mais là, ce n'est pas juste les mauvaises récoltes, c'est la spéculation internationale. C'est-à-dire les puissances, la France par exemple au Maghreb, les Anglais en Inde, en Afrique et ailleurs, qu'est-ce qu'ils font? Non seulement ils imposent des cultures qui soient utiles à leurs propres intérêts. Donc, par exemple, les Anglais imposent le blé au Punjab ou ils imposent d'autres formes de riz, même en Afrique. Mais surtout, ils obligent les populations locales qui se mettent à ces cultures à exporter ces produits, même en cas de mauvaise récolte. La solution, selon les Anglais, c'est le libre marché. Mais le libre marché, dès l'époque, confirme que précisément parce qu'il y a davantage de transports, précisément parce que les prix s'unifient à l'échelle internationale, les insuffisances locales non seulement ne sont pas comblées, mais elles s'accentuent parce qu'on spécule. Et du coup, on a avec la hausse et l'internationalisation des marchés vers la fin du 19e siècle, de manière paradoxale, on a une solution définitive, disons, des famines en Europe, c'était déjà le cas depuis des décennies, mais on a surtout une multiplication des famines dans le monde colonial.
Oui, parce que cette question nationale ne doit se comprendre que dans un contexte impérial.
Déjà au premier âge de l'histoire, les peuples méditerranéens vantaient la fécondité de la terre tunisienne. Mais c'est Rome qui devait lui donner ce nom de grenier qu'elle a depuis conservé à travers les avatars et les bouleversements. La Tunisie, aujourd'hui comme hier, avec la variété et l'abondance de ses productions, la Tunisie est avant tout un royaume agricole. Quand, sous le soleil de juin, la pointe des épis marque l'heure de la récolte, on peut voir encore dans certaines régions les fellahs reproduire sans changement les gestes de la moisson telle qu'elle apparaît dans les bas-reliefs égyptiens, sur la paroi des temples et des tombeaux. Méthodes archaïques qui se poursuivent, identiques à celles des plus lointains autrefois, mais dont le rendement est naturellement très faible. Image pittoresque, mais que les progrès de la culture apportés par la vie française font reculer chaque jour pour les remplacer par d'autres images, celle d'une abondance plus large et d'une fécondité plus poussée.
La Tunisie, royaume agricole dans les actualités françaises en 1948. Alessandro Sanziani, la colonisation est donc liée au blé. Et cette colonisation, on peut la prendre sous plein de formes, parce que vous nous l'avez bien expliqué. Que ce soit la Russie qui regarde vers les steppes, que ce soit la Chine qui regarde vers des territoires lointains, ou la Grande-Bretagne, vers l'Amérique... Et pourquoi pas la France pour son empire? Tout cela est lié au blé, et depuis que nous parlons, on voit l'importance de cette céréale.
Alors ça c'est important parce que le cas français s'y distingue des deux autres. Alors comme je le disais avant, l'Angleterre et la Russie se lancent très tôt dans cette stratégie de occuper des terres que Pomerantz, l'auteur de La Grande Divergence, qualifiait de terres fantômes, de acres fantômes. En réalité donc, ils occupaient des terres ailleurs pour faire pousser du blé et pour commercialiser le blé à l'échelle mondiale. Là, c'était la Russie et l'Angleterre. La France se lance beaucoup plus tard, justement, dans le Maghreb. Mais pour quelle raison? Tout d'abord parce que la France, auparavant, s'appuyait au 18e, du côté des marchés internationaux, s'appuyait aussi sur le sucre. La perte de Saint-Domingue est quelque chose qui a été parfois sous-évalué. Saint-Domingue a porté des profits. Et la perte de Saint-Domingue est vraiment importante pour la France après la Révolution. La France se lance donc dans une tentative qui aille au-delà de l'autosuffisance. La France a été tout le temps obsédée par l'autosuffisance en blé. Elle a obtenu, elle était autosuffisante, mais elle n'a jamais joué la carte du blé pour l'exportation au XIXe siècle, comme l'Angleterre et comme la Russie. Elle commence à s'intéresser, la France, aux colonies pour produire des céréales vers la fin du 19e siècle, et c'est là où intervient le Maghreb. On commence à cultiver du blé, on a bien sûr là aussi enlevé les terres aux soi-disant nomades, on n'avait pas de titre de propriété, donc on peut occuper les terres, on commence à produire du blé, le blé au Maghreb augmente, en cas de mauvaise récolte, la France opère exactement comme l'Angleterre, c'est-à-dire... Pas de question, on ne se soucie pas des populations locales, mais on continue d'exporter leur blé pour le marché international, voire pour la France. Et pourtant, les quantités produites au Maghreb, évidemment, ne sont pas comparables à celles que la Russie obtient en Ukraine ou que les États-Unis obtiennent dans leur plaine ou que l'Angleterre obtient encore au Canada et en Australie. Et c'est là une véritable différence, de mon point de vue, qui permet d'expliquer la divergence entre la croissance française et la croissance anglaise. C'est pas forcément la productivité du travail, c'est pas forcément l'industrie, c'est la disponibilité d'un empire fondé sur le blé qui permet à l'Angleterre de soutenir sa croissance au XIXe siècle, à la différence de la France.
Et on voit qu'il y a un effet où le blé alimente lui-même la puissance, parce que ça devient, on parle d'étalon or pour les monnaies, l'étalon céréales.
Absolument. En réalité, si on voulait faire l'histoire longue du blé par rapport à d'autres produits, les historiens économiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis l'accent, par exemple, pendant longtemps, sur le coton. C'est le coton la source du progrès. Ensuite, ça sera arrivé la grande industrie. Et puis arrivent les ordinateurs, et aujourd'hui arrive l'intelligence artificielle. Et pourtant, si on raisonne à l'échelle mondiale, on voit que pendant des siècles, le blé, et encore de nos jours, reste le problème principal pour concilier croissance démographique, croissance économique et survie de l'humanité même. Ce n'est pas en question de chemise, ce n'est pas en question d'acier, c'est en question de blé. Et la question est de savoir pourquoi, sur des siècles, malgré tellement de progrès techniques, le blé, les céréales, mais le blé en particulier, pose encore de nos jours problème.
Voilà donc pourquoi aujourd'hui nous vous recevons, Alessandro Stanziani, Les guerres du blé que vous publiez à La Découverte. Et dans le cours de l'histoire, il va falloir nous parler de ce blé comme arme. Parce qu'il y a de cela aussi, hein, le blé, arme pour la famine, contre la famine, arme de guerre comme une évidence. Mais avant tout cela, le chant des moissons.
Quand les fruits mûrs courbent les branches, et quand on voit même un dimanche les paysans quitter leur maison, c'est le début des moissons. Mais si le blé penche la tête, si le soleil aide la fête, si dans les champs montent des chansons, belle sera la moisson. Courbe, courbe, courbe bien l'échine, ta richesse, elle est dans tes deux bras. Roule, roule, roule la machine, et surtout, surtout dépêche-toi, car il ne faut jamais attendre. L'orage du ciel peut descendre et tout anéantir sans raison. Ton sort dépend des moissons. Le garçon pense au badinage quand la récolte est finie. La fille pense au mariage quand les greniers sont remplis. Mais s'achèvent les confidences, l'amour, la danse et les chansons. C'est avec demain que commence l'appel des nouveaux sillons. C'est alors qu'on voit dans la plaine se déplier l'immense chaîne d'hommes et de femmes jusqu'à l'horizon, préparant la semaison. Après les récoltes, l'on sème, mais le chemin reste le même. Éternellement recommenceront pour de nouvelles moissons.
Jacqueline François qui chante les moissons dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui la technique d'Alia. Et aujourd'hui, nous partons en guerre, enfin les guerres du blé, Alessandro Stanziani, ces guerres du blé, c'est aussi un combat que les États doivent mener pour lutter contre les famines. Alors c'est compliqué, déjà il y a tout ce vocabulaire, hein. La disette c'est un temps court, la famine c'est complètement autre chose, mais dans notre esprit l'État va toujours lutter contre la famine. Et vous allez nous montrer que c'est pas toujours le cas.
Non, ce n'est pas le cas, pour deux raisons. Primo, parce qu'en dehors des périodes de guerre, l'État peut lutter contre les famines dans la mesure où il essaie d'adopter, ou il peut adopter, et on l'a vu que ça change au fil du temps, des politiques régulationnistes pour réduire les spéculations, mais l'État peut également encourager les spéculations. C'est le cas, par exemple, vers la fin du XIXe siècle, et à d'autres moments. C'est le cas, par exemple, de nos jours, où il y a une dérégulation totale des marchés. Mais l'État peut intervenir encore plus directement en cas de guerre, et utiliser le blé et la faim comme armes de guerre. C'est le cas en particulier pendant la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale qui a été souvent vue comme un processus dans lequel, enfin, les nouvelles technologies interviennent dans les combats. Il n'en est rien. La Première Guerre mondiale se règle par le blé. Pourquoi ? Parce que Churchill en particulier a tout de suite une idée pour gagner la guerre. ce n'est pas important d'avoir une industrie avancée, il faut avoir du blé. Pour nous, il faut affamer l'ennemi. C'est sa stratégie tout de suite pendant la guerre. Et pour faire cela, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assure d'abord d'avoir le blé en provenance des États-Unis, du Canada, de l'Australie, voire du fameux Punjab en Inde, au risque d'affamer encore une fois les populations locales. C'est ce qu'il fait et pendant la Première et pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire, en cas de mauvaise récolte pendant les guerres mondiales, les Anglais n'ont aucun souci à continuer à s'approvisionner en blé, par exemple en Inde, par exemple en Afrique, et à laisser mourir les populations locales. Et en même temps, les Anglais, qu'est-ce qu'ils font? Ils instituent un blocus pour stopper l'arrivée de blé pour les ennemis. Alors, et là, c'est une différence de stratégie fondamentale. Les Allemands n'y avaient pas pensé du tout, parce qu'ils pensaient à une guerre très vite, un blitzkrieg. Donc, ils n'avaient pas besoin d'approvisionnement. Ils misent sur l'industrie, sur l'armée lourde. Et le résultat est lequel? C'est que les Allemands, une fois que la guerre dépasse les premiers 6 mois, ne savent plus comment approvisionner l'armée, comment approvisionner les villes. Il en est la même chose, par exemple, pour les Autrichiens, et c'est la même chose en Russie. Les Russes aussi, ils ont une agriculture, en principe, encore au cœur de leur économie, de leur société. Pourtant, ils enlèvent tous les paysans pour les envoyer en guerre. C'est exactement l'opposé de la stratégie anglaise. Et du coup, en Russie, la situation devient de plus en plus tendue. La Russie était en train d'évoluer. Il y avait des changements importants, un taux de croissance important. C'est pas la fin qui provoque la révolution russe, parce que des changements importants avaient déjà survenu. C'est la Première Guerre mondiale qui casse totalement l'élan de la Russie et provoque quelque chose de nouveau. C'est quoi quelque chose de nouveau? C'est la fin de l'ouvrier paysan, c'est-à-dire de la pluriactivité qui avait existé jusqu'à là et qui est remise en discussion parce que pendant la guerre, les paysans n'ont plus la liberté de bouger entre villes et campagnes, et cela provoque des émeutes qui s'ajoutent à la faim dans les campagnes et au sein de l'armée. Donc la Première Guerre mondiale se règle essentiellement par la faim. Churchill avait raison, il gagne par la faim. D'où, si vous voulez, l'importance des approvisionnements et des stratégies militaires pour la Seconde Guerre mondiale. Comment on y arrive? On y arrive à partir de l'expérience de la Première Guerre mondiale. Alors, déjà, la faim pour gagner la guerre. Elle fait des émules auprès de qui? Des nouveaux pays socialistes et communistes. Les Russes d'abord, ils imitent Churchill et ils disent « c'est génial, la guerre permet de gagner ». Permet de gagner contre qui? Avant tout contre la contre-révolution paysanne. On a d'abord une famine, en partie provoquée en 21-22, on a ensuite l'ordre mort. C'est-à-dire, on laisse mourir de faim 5-6 millions d'Ukrainiens parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans l'Empire soviétique et parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans les kolkhozes. Donc, c'est une solution qui s'inspire de la Première Guerre mondiale, mais contre leur propre population. Mao fera la même chose vis-à-vis de ces populations à l'époque de la Révolution culturelle, 50 millions de morts, une famine provoquée pour arrêter la résistance. Et en même temps, de l'autre côté, pour les autres pays, l'évolution de la relation entre guerre, faim, victoire, industrie, change aussi. Dans quelle mesure les Allemands commencent à lancer des analyses dans l'entre-deux-guerres sur comment et combien on peut survivre, à partir de quel nombre de calories? Alors là, c'est vraiment important. La naissance de la diététique entre les deux guerres, c'est un phénomène absolument peu connu. On pense à la diététique pour bien se porter, pour être mince, pour bien se nourrir. Bah, pas du tout. La diététique commence à être pensée combien de calories par jour à l'époque de la Première Guerre mondiale et elle se développe dans l'entre-deux-guerres au sein des colonies, des pays colonisateurs européens, des études en France, en Angleterre, sur la diététique pour les populations en Afrique, en Inde, combien ils doivent manger pour arriver à survivre. Les Allemands commencent à penser autre chose, combien on peut manger en cas de guerre et combien de calories on peut avoir. Ils continueront leurs expériences dans les camps, évidemment, en voyant jusqu'à quand des gitans, des juifs peuvent survivre avec combien de calories. Donc la naissance de la diététique est un phénomène en réalité tragique. Et pourtant, les Allemands, malgré ces expériences, n'y arrivent pas. Et pour quelle raison? Pendant la Seconde Guerre mondiale, à nouveau, parce que eux, ils pensent occuper des terres pour avoir du blé. Ils veulent faire comme les Anglais. Ils occupent la Pologne, ils occupent l'Ukraine. Et ils essaient d'envoyer des soi-disant colons allemands. Sauf que les colons allemands ne savent pas comment cultiver la terre en Ukraine. Ils obtiennent très peu de céréales. Donc, une fois de plus, le blé pose le problème à l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et une fois de plus, ce sont les Anglais qui s'en sortent très bien grâce à leur blé qui vient des États-Unis, de l'Australie et du Canada. Donc, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, même en Europe et à l'échelle mondiale, le blé demeure le nerf de la guerre.
C'est la bataille du blé pendant la Seconde Guerre mondiale.
Chez nous, vous le savez déjà, chers auditeurs, quiconque a traversé l'une ou l'autre de nos provinces peut répondre avec assurance que les champs de blé sont magnifiques, qu'ils n'ont jamais été si étendus et que les paysans ne sont pas mécontents, ce qui est beaucoup dire, des promesses de la terre. Ces préoccupations d'ordre alimentaire sont aujourd'hui communes à tous les peuples de l'Europe. Autrefois, chez nous, on souriait ironiquement en lisant qu'un chef d'État voisin inaugurait la bataille du blé, en conduisant lui-même une charrue et en portant des gerbes. En ces jours de crise, on comprend enfin. Et c'est toute l'Europe qui livre sa bataille du blé avec la volonté de la gagner. En France, la campagne de 1942 pour le pain est considérée comme victorieuse. Les rations n'ont pas été diminuées pour assurer la soudure. Voyez-vous, chers auditeurs, cette guerre est bien une guerre d'indépendance. L'Europe tout entière, les armes ou l'outil à la main, se bat pour assurer sa liberté politique et en même temps sa liberté économique. Le jour n'est plus très éloigné où chacun d'entre nous reconnaîtra que les épis de Bessarabie ou de Wallonie ont pour nous, Européens, le même sens que les épis de la Beauce ou ceux du Poitou. Tout comme il y a une stratégie militaire, il y a une stratégie du pain.
Archives de propagande, c'est Radio Paris en 1942 avec un speaker non identifié qui nous évoque ici alors la bataille du blé, et plutôt les batailles du blé, parce qu'il y a ce clin d'œil fait, sans le citer directement, à Mussolini, hein, qui dans les années 1920 avait lancé la bataille du blé dans l'Italie fasciste. Ça, c'était un grand moment aussi, blé et totalitarisme.
Absolument, c'est quelque chose d'important, en paraphrasant un peu un auteur, un politiste des années 60 qui s'appelait Barrington Moore Jr. qui avait écrit « Les origines sociales de la dictature et de la démocratie », je dirais qu'il y a les origines grainaires, céréalières des dictatures et des démocraties. Pourquoi ? Parce que, par exemple, dans l'entre-deux-guerres, les pays totalitaires misent sur le blé et il y a une guerre du blé. J'ai déjà parlé de l'Union soviétique et en partie de l'Allemagne. Mussolini fait la même chose. Il veut absolument avoir davantage de terres à cultiver. Il les récupère en partie en Italie. Il occupe l'Éthiopie pour produire du blé. La guerre du blé, et le blé est décidément lié à l'espace vital. Mais pourquoi cette insistance pour le blé ? Elle est non seulement économique, parce que le blé reste important, mais elle est aussi idéologique et politique. Pour quelle raison ? Parce que, comme je l'avais dit, le monde qui est considéré comme d'ancien régime, qu'en principe serait censé s'effondrer à la fin du XVIIIe siècle, il ne s'effondre pas. Les grands propriétaires fonciers, partout en Europe, pas seulement en France, pas seulement en Russie, mais également en Angleterre, les grands propriétaires fonciers demeurent en haut de la société et des économies du XIXe siècle. On pourrait parler de capitalisme aristocratique. Il y a une alliance, beaucoup plus qu'une opposition, entre propriétaires fonciers et un nouveau monde industriel et commercial. Les paysans sont toujours des ouvriers paysans. Il n'y a pas de prolétaires. Mais du coup, ce monde fait face aux secousses de 1789, de 1848, de la première révolution industrielle, mais il est toujours là. Et selon mon argument, c'est exactement ça le problème. L'ancien monde survit avec le capitalisme jusqu'à la Première Guerre mondiale. Il s'effondre trop tard. Et c'est pour ces raisons qu'on peut mieux expliquer les tragédies, les bouleversements de la première moitié du XXe siècle. Les tentatives de résistance de cet ancien monde en train de disparaître. Ce sont les révolutions paysannes qui s'opposent, en Russie précisément, à la prolétarisation, bien à la fin de l'ouvrier paysan. C'est la résistance au sein de l'Italie, de l'Allemagne, des anciennes classes des propriétaires fonciers, voire des paysans, face à l'industrialisation qui avance. Les totalitarismes sont en réalité une réaction à cette grande transformation de l'agriculture qui, elle est très tardive et qui intervient entre les deux guerres. C'est donc une toute autre image, mais qui permet de mieux comprendre ces origines du totalitarisme d'un côté, des pays soi-disant démocratiques de l'autre, qu'ils trouvent dans l'entre-deux-guerres. Une autre solution encore, ce sont les aides au développement d'un côté Il faut aider les pays qui sont sortis de la Première Guerre mondiale, il faut aider les colonies à sortir de la faim. Et cette suggestion s'en accompagne d'une autre. Il ne suffit plus de contrôler les marchés du blé, la production du blé. Il faut intervenir sur un élément essentiel dans la production, c'est-à-dire les semences. Il faut commencer à contrôler les marchés des semences et à produire autrement des semences. Cette grande transformation a lieu précisément entre les deux guerres. Et pour quelles raisons ? Ce sont d'abord les États-Unis, qui d'abord inspirés par Mendel, avaient commencé à sélectionner autrement les semences. Or, la solution de mélanger des semences en laboratoire, au début, ne prenait pas, il n'y avait pas trop d'investisseurs. Et c'est là qu'intervient l'État. Après la crise de 1929, Roosevelt, on parle toujours de New Deal pour d'autres secteurs de l'économie. En réalité, les Américains injectent des financements importants dans la recherche pour obtenir des semences hybrides en laboratoire. Ils y parviennent avant tout pour le maïs. C'est plus facile à transformer par rapport au blé, par rapport au riz. Ils commencent à produire du maïs hybride et le deal, c'est lequel ? Les farmers américains sont endettés, on vous éponge les dettes, mais vous prenez ces nouvelles semences hybrides. Les semences hybrides passent de 2% à 90% entre 35 et 42. Après la Seconde Guerre mondiale, les Américains, évidemment, pensent pouvoir faire la même chose à l'échelle internationale. Ils ont gagné la guerre, du coup, ils viennent en Europe et le plan Marshall, qui est connu aussi pour d'autres raisons, utilise encore une fois les semences hybrides produites aux États-Unis. C'est-à-dire, vous êtes endetté, on vous aide, mais en échange, vous prenez les semences produites par les semenciers américains. Et c'est une nouvelle ère qui commence avec les semences hybrides, les filières. On commence par produire des nouvelles variétés de maïs. Avec le temps, le blé et le riz s'y rajoutent et c'est une dynamique à l'échelle mondiale. La Fondation Rockefeller intervient, donc c'est un mélange fondation privée État américain. Ils imposent les hybrides non seulement à l'Europe, mais par exemple au Mexique. Les guerres en Asie du Sud-Est, d'abord la guerre de Corée, ensuite la guerre du Vietnam, s'accompagnent de l'imposition de semences hybrides produites aux États-Unis et puis de plus en plus en France, dans les colonies et puis anciennes colonies.
Oui, parce qu'on comprend vraiment le sous-titre de votre ouvrage, hein, « Les guerres du blé, une histoire éco ». Histoire écologique et géopolitique, et il y a écologique là-dedans, ben, rien de tel à ce moment que de laisser la parole à un agronome et un pionnier de l'écologie politique, René Dumont.
L'ORTF vient de s'associer à l'Action de Famine de le comité constitué en France pour sauver de la mort immédiatement, grâce à des envois de lait et de riz, les milliers d'enfants que la nouvelle famine, encore plus atroce semble-t-il que les précédentes, menace.
La faim dans le monde, c'est une conséquence du sous-développement. Le sous-développement, c'est une conséquence du fait que dans ces pays existent des minorités privilégiées qui n'ont pas assuré le développement. Mais de ces minorités privilégiées, nous avons été complices, nous avons été solidaires, notamment par le phénomène de la colonisation. Et quand l'Angleterre a colonisé l'Inde, elle a profité pour son développement industriel, ça n'a pas été le seul facteur, mais ça a été important, mais elle a ruiné une partie importante de l'artisanat indien. Et brusquement, tandis que jusqu'à présent, c'est cette action de freinage économique entraîner aussi un freinage démographique. L'action des dernières années de la colonisation, en Afrique française par exemple, et l'action des jeunes États indépendants en Inde, a consisté à débloquer les freins à la croissance démographique, alors qu'auparavant, les freins à la croissance économique bloquaient aussi les freins à la croissance démographique.
Et voilà, René Dumont, en 1966, l'analyse est là avec une famine en Inde. Et c'est très intéressant parce qu'on sent que tout est lié. C'est cette histoire que vous dressez, Alessandro Stranzani, où on a une histoire globale, mais elle ne peut pas être autrement que globale.
Alors, sans doute, c'était très intéressant d'écouter René Dumont, parce qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, on a quand même des stratégies relativement différentes pour les pays dits en voie de développement, du côté américain, du côté anglais, du côté français. Le débat, encore une fois, c'est lié, est-ce qu'on commence par l'agriculture ou on commence par l'industrie ? Comment on fait pour faire sortir ces pays du sous-développement ? Et pour ceux qui misent sur l'agriculture, le débat est-ce qu'on utilise, par exemple, des semences locales ou bien des semences qui ont été produites en laboratoire. Les États-Unis misent sous la seconde solution, parce qu'ils ont désormais des grandes entreprises sémencières et ils essaient de rentabiliser ces entreprises. Côté français, ils sont davantage partagés, parce que déjà en Indochine, il y avait une circulation des riz, des tentatives de mélanger des riz chinois et des riz d'Indochine, mais avec les agronomes français, pendant l'entre-deux-guerres, pendant la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale, les agronomes étaient plutôt partagés. Est-ce qu'on doit plutôt miser sur des qualités standardisées de semences ou bien il faut miser sur les qualités locales? C'est un débat qui commence à ce moment-là et qui arrive jusqu'à nos jours. C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin d'un blé unique pour la planète qui est très rentable mais qui défonce totalement les écosystèmes, ou bien on doit miser sur des qualités locales de semences et donc d'agriculture qui respectent davantage les écosystèmes? Les débats sont très vifs partout sur la planète, notamment en France, à partir des années 50 et jusqu'à nos jours, au sein de l'IRA, l'Institut de Recherche Agronomique, il y a effectivement ces deux tendances qui sont présentes, et de manière même très importante. Le succès de la production en laboratoire, même au sein de l'IRA, est un phénomène très très récent, en réalité lié au soi-disant cofinancement de la recherche privée et de la recherche publique, et donc l'insistance pour des semences liées à la génétique. Mais encore de nos jours, au sein de l'IRAE, il y a des chercheurs qui mettent l'accent sur l'importance des savoir-faire locaux, des semences locales. C'est un immense débat. Est-ce qu'il faut chercher des variétés ou est-ce qu'il faut standardiser les semences et les blés en particulier? Pendant la seconde moitié du XXe siècle, c'est la standardisation des blés qui a joué un rôle. Elle a joué un rôle de quelle manière? Elle a permis à la France, à l'Europe, de sortir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et en même temps, il y avait un prix à payer pour ça. Ces nouvelles variétés demandaient énormément de fertilisants chimiques. Ces fertilisants, ajoutés aux pesticides, ont détruit les écosystèmes et à terme, les rendements ont commencé à nouveau à baisser à partir des années 70. Il y avait un problème, comment fait-on pour continuer à augmenter les rendements? Et c'est là où, après les semences hybrides, on invente les OGM. On commence à séquencer le génome au lieu de mélanger juste des semences pour essayer de faire remonter encore les rendements. Entre-temps, les anciennes semences hybrides sont vendues, imposées au soi-disant tiers-monde à partir des années 70. Elles sont plus utiles dans les pays avancés, mais elles le deviennent pour qu'on puisse avoir une révolution verte. En Afrique, en Inde, et on a une révolution verte, on a une hausse des rendements, mais encore une fois, les famines disparaissent, et puis à partir du tournant du siècle, là aussi, les rendements commencent à nouveau à s'étasser. Et la question n'est pas encore réglée. Et du coup, le problème est-ce vraiment la hausse de la population le problème?
Ouais, parce que ici, dans les guerres du blé, Alessandro Stanziani, vous posez des problèmes très contemporains. Et c'est pas juste, je le dis, un essai qui serait le blé à mener l'histoire du monde. Et on peut comprendre l'histoire du monde à travers le blé. Ça va beaucoup plus loin. Et on vous a entendu aujourd'hui. Et c'est très clair. C'est extrêmement stimulant avec une question. Est-ce vrai que vous êtes sensible au gluten? C'est vrai, ça?
Bon, disons qu'en principe, il a la syndrome de Forrest Gump. C'est-à-dire, je développe là où je suis faible. Alors, j'étais depuis toujours allergique aux graminées et à terme, je suis devenu de plus en plus sensible au gluten. Et pour un Napolitain, c'est une véritable tragédie.
Voilà, c'est la pizza sans pâte et les pâtes sans pâte. Il vous reste la sauce tomate. Merci vivement à vous. Les guerres du blé, c'est publié à la découverte. Merci Alessandro Stanziani. Merci beaucoup.
Du camion au silo. Du silo au chemin de fer, du chemin de fer au moulin et du moulin à la boulangerie. Préparé, mélangé, pétri. Mélangé, pétri, pesé, moulé, du pain, notre pain quotidien. Telle est l'histoire du blé. Nature et travail s'unissent pour le don généreux de la moisson dorée.
C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Maëlie Soisic-Fraboulet, Jeanne Copé, Raphaël Laloum, Maël Vincent Randonnier et Mayouen Guizou. Le cours de l'histoire à retrouver à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.